Dans le très récent roman de Jonathan Coe, Le cœur de l'Angleterre, traduit en français par José Camoun, il est question d'une décennie, la dernière, qui redéfinit les identités britanniques à l'heure du Brexit. Je me souviens notamment d'une démonstration absolument brillante sur ce que c'est que d'être anglais, à partir d'un poème de 1804 signé William Blake. À partir de ce vers du poème Jérusalem, « And was Jerusalem builded here ?» qui ne veut strictement rien dire en anglais. En français, ça donnerait « Et Jérusalem fut-elle construite ici ?» Alors un personnage dans le roman de Jonathan Coe s'indigne et dit à un autre « Mais ce participe passé, construite, ça n'est pas correct, ça n'existe pas. » Et l'autre anglais, professeur à l'université, lui répond qu'il a raison, mais que ça permet au poète d'avoir le bon nombre de syllabes. Donc ça passe, et l'autre se marre et dit cette phrase. « Voyez, c'est ce qui me plaît chez les Anglais. Vous passez pour des gens fiables, conservateurs, et pourtant, vous passez votre temps à enfreindre les règles. Quand ça vous permet d'arriver à vos fins, vous enfreignez allègrement les règles. On ne pouvait pas dire mieux. Jonathan Coe, Le cœur de l'Angleterre et le goût so British de la subversion.
Boomerang, Boomerang, Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mes invités d'aujourd'hui sont assurément anglais. Ensemble, ils forment le duo d'électropop le plus flamboyant et iconique des années 80 britanniques. Leur 14e album Hotspots sort à la fin du mois. Nappe de synthé, mélodie envoûtante, rythme obsédant. Bonjour Neil Tennant.
Bonjour.
Bonjour Chris Lowe.
Bonjour.
Bonjour les Pet Shop Boys. Merci beaucoup d'être avec nous.
Ici nous sommes.
Ce matin. Tout d'abord, qu'est-ce qu'il y a de plus anglais en vous, à votre avis?
Ce qu'il y a de plus anglais en nous, je pense que c'est le fait que nous venons du nord de l'Angleterre. Chris vient du nord-ouest et moi je viens du nord-est. Et c'est là que sont nos racines, c'est ce qui nous définit, je pense.
Oui, c'est ça. On s'adapte pas mal, où que l'on aille dans le monde.
La question se pose particulièrement aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire d'être anglais aujourd'hui?
Être anglais, vous savez, on vient d'avoir des élections, vous savez peut-être. Et en fait, ça a été un deuxième référendum, ces élections. Moi, personnellement, je voulais qu'on reste. Et bon, voilà, je pense qu'on a un deuxième référendum, on va quitter l'Europe, c'est dingue.
Un truc de dingue.
Être anglais, c'est peut-être aussi tout simplement musicalement avoir un sens de la mélodie. Parce que si les Anglais nous ont enseigné quelque chose en musique, à mon avis, c'est quand même l'art de la mélodie.
C'est amusant parce qu'en fait, il y a 100 ans, le milieu du 19e siècle, les Allemands disaient que la Grande-Bretagne, c'était l'île sans musique. Bon, ils avaient Beethoven, ils avaient Bach, ils avaient Mendelssohn, Bruckner, et nous, on n'avait personne. Et puis après, dans les années 1960 à peu près, on a eu des compositeurs classique, mais aussi tous les groupes pop, tous les groupes rock anglais qui dominaient la scène mondiale. Et d'où est-ce que ça vient? Je ne sais pas, c'est intéressant. Je me dis que c'est peut-être venu en fait d'une espèce d'instinct folk. Quand on écoute les Beatles à leur début, il y a cette influence américaine, mais aussi quelque chose d'un peu folk. Donc c'est intéressant ce que vous dites, parce que ce n'était pas le cas. Et on a un vrai sens de la mélodie. C'est probablement la chose la plus importante pour nous.
Qu'est-ce que c'est une bonne mélodie pour vous, Chris Lowe?
Pour moi, une bonne mélodie, ça doit vous émouvoir. Mais la mélodie doit s'associer aux paroles, on ne peut pas vraiment les séparer l'une de l'autre. Une espèce de combinaison, d'alliage de plusieurs éléments. La mélodie, les paroles, les accords. Et puis pour la danse ou l'électro, il y a aussi le rythme, la base rythmique. Tout ça, ça se combine pour avoir un impact émotionnel sur l'auditeur.
Avec quelle musique est-ce que vous avez grandi, les Pet Shop Boys? À quoi ressemblait le paysage musical de vos jeunes années?
Quand on était jeune, on savait que c'était génial. Il y avait les Beatles qui étaient à leur début. Et puis on voyait des batteries des Beatles pour gamins dans les magasins, c'était génial. Et puis il y avait la Motown. Et puis on allait chez les disquaires en ville. Le premier film que j'ai vu, moi, c'était Summer Holiday avec Cliff Richard. Donc, on voyait la musique au cinéma, Hard Day's Night, des Beatles aussi. Donc, c'était pas simplement à la radio, on voyait les choses au cinéma aussi. Donc, on a grandi avec ça. On a vu toute cette musique s'écrit, s'échange, c'est génial. Et puis, on a vécu à l'époque des comédies musicales. Mais chez nous, on n'avait que 5, 33 tours. Nous avions My Fair Lady, Oliver, Mary Poppins et la Mélodie du Bonheur.
Il y a beaucoup de ça dans les Pet Shop Boys. Il y a du My Fair Lady, il y a du Mary Poppins.
À 9 ans, je connaissais par cœur toutes les chansons de My Fair Lady. C'est des paroles intelligentes, hein, d'ailleurs. Et je me suis rendu compte que cette manière d'écrire m'avait influencé, imprégné. Il y a bien d'autres choses aussi, mais il y a aussi l'influence des Beatles.
Et puis il y a aussi la façon de chanter, le style de Julie Andrews. Gros impact aussi sur le son des Pet Shop Boys.
Je dis toujours que j'ai la même voix que Julie Andrews.
Ben, c'est vrai, on comprend ce que tu dis. Articule aussi bien qu'elle, voilà.
C'est un beau compliment quand même. Votre groupe, les Pet Shop Boys, c'est intéressant parce qu'il est né dans les années 80, une époque où le punk rock était encore prédominant. Et le rock de ces années-là, c'était pas vraiment votre truc, en fait.
I mean, when we started,
à nos débuts, on a été assez marqué en fait par la pensée punk lorsqu'on a écrit ce titre-là. C'était du punk hein, pour nous, avec un arrangement électronique, quatre accords, ça aurait pu être fait par un groupe punk avec ce message un peu sarcastique. Hein. Ça, c'est un style qui a été introduit par les punks, dire l'indicible.
En quoi est-ce que votre musique refusait le réalisme, par exemple?
Ce qui nous a beaucoup influencé pour l'écriture de nos textes, ça a été en fait de traîner dans Londres, hein, dans Soho, on allait dans des clubs. Et Londres, c'était encore assez rock'n'roll hein, à l'époque, si j'ose dire. C'était le vieux Soho à l'époque, avec les cafés français, les cafés italiens, des petits clubs où on pouvait aller boire un verre, ces espèces de petits escaliers improbables avec des cartes de visite de prostituées, des sex shops. Donc, on a vraiment, nous, essayé de faire passer ça dans nos textes. Avec un petit peu de romantisme peut-être. La nouveauté c'était vraiment le son électronique et on s'est dit en fait voilà c'est ce qu'on fait c'est de la danse électronique avec des paroles un petit peu recherchées littéraires si j'ose dire, mais c'était quand même des paroles authentiques qui représentaient vraiment ce que c'était que la ville de Londres à l'époque, ce qu'on y vivait avec cette petite pointe de romantisme.
Pour ceux qui ne s'en souviendraient pas, les Pet Shop Boys, c'est d'abord une fille de l'Ouest. Ce sont aussi des histoires pas très catholiques. Puis c'est également une reprise, celle d'un titre mythique de Brenda Lee. Dernière pour la route, quand les Village People rencontrent les garçons de l'animalerie et les supporters du PSG. Ce dont témoigne votre musique, c'est aussi un goût pour la reprise. J'ai cité Always on My Mind, Go West, mais j'aurais pu tout autant parler de Somewhere dans West Side Story ou encore de Where the Streets Have No Name de U2. Pourquoi est-ce que vous avez tant aimé reprendre les chansons des autres, les Pet Shop Boys?
À vrai dire, c'est pas toujours pour la même raison. Pour Go West, par exemple, on faisait un spectacle avec Derek Jarman. Always on My Mind, tu as dit Brenda Lee. En fait, c'est une reprise d'Elvis. Il y a eu un programme à la télé pour le 10e anniversaire de la mort d'Elvis.
Au fond, pour vous, Neil Tennant et Chris Lowe, les Pet Shop Boys, qu'est-ce que c'est une bonne chanson? Est-ce que c'est forcément un titre qui arrive au sommet du top 50?
Non, c'est vraiment, il faut qu'il y ait un feeling, il faut qu'elle te remue. les tripes, les paroles doivent te plaire au plan rythmique aussi, il faut qu'elles te remuent, il faut que cette chanson, elle te fasse sentir pas forcément bien, triste pourquoi pas, il faut vraiment qu'elle t'éclaire des choses dans ta vie.
Et puis c'est quelque chose de nouveau quand même aussi, dans les années 80, la nouveauté, vous le disiez, c'était le son des synthés. Qu'est-ce qui, l'un comme l'autre, vous a immédiatement fasciné dans ce nouveau son?
Moi j'ai aimé cette musique qui est arrivée avec Kraftwerk, ça évoquait le futur, je me souviens, j'ai acheté un synthétiseur, je l'ai ramené à la maison, c'est quand même excitant, appuyer sur un bouton et on ne sait pas quel va être le son qui va sortir, ou alors on a appuyé sur une touche et tout à coup on avait toute une mélodie, c'était excitant vraiment.
Et ça vous a tout de suite, immédiatement ouvert de nouveaux horizons musicaux?
Well, the great thing about...
Ce qui est génial dans la musique électronique, c'est qu'on peut faire ça tout seul. Aujourd'hui, les DJ, ils font des albums quand ils prennent l'avion, vous voyez? Donc, c'est pas la peine de faire venir un groupe des musiciens. Et puis, nous, à nos débuts, on allait dans l'appartement de Neil, et puis on avait un enregistreur à cassette avec un clavier monophonique. On tapait sur la table pour avoir le rythme, et puis voilà. Donc, on pouvait écrire des chansons de façon très simple.
C'est vrai que ça beaucoup changé l'électro, c'est quand même devenu beaucoup plus facile, il suffit d'avoir un ordinateur, vous le disiez. Est-ce que vous diriez qu'avec ces progrès, on a perdu quelque chose, Neil Tennant, Chris Lowe, les Pet Shop Boys?
Non, pas vraiment. Vous savez, la musique évolue avec le temps, avec la technologie, il y a de nouvelles formes de musique qui apparaissent. Aujourd'hui, on peut couper facilement, ça a complètement changé la pop, le sampling aussi, les synthés, la guitare électrique, le saxophone a créé le jazz. Donc c'est toujours important d'avoir ces évolutions technologiques. C'est comme ça que la musique progresse.
Ah oui, quand Cher a sorti... Voilà, ça, tout le monde parlait de l'effet Cher. Oui, c'est vrai que c'était une nouveauté. Mais les gens aiment bien entendre quelque chose de nouveau.
Vraie question, est-ce que vous avez le Cher Effect? L'effet Cher?
On a tous fait le Cher Effect.
On a tous donné dans le Cher Effect. Hein. Kanye West,
Oui, ça nous plaît tous.
Les gens pensent que ça va passer, mais non.
Ça fait partie de l'arsenal de la technologie pour faire de la musique.
Celle qui fait, dans les faits chers, vous la connaissez sans doute, c'est la culture et son actualité autotune. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, vendredi 10 janvier? Ça déroule pour Jules, le rappeur phénomène marseillais a franchi la barre des 3,5 millions d'albums écoulés, ce qui fait de lui le plus gros vendeur de l'histoire du rap français. Il laisse ainsi dans le rétro les légendes du game, comme MC Solar, IAM et Booba, pole position qui s'explique en grande partie par l'incroyable productivité du jeune rappeur de 29 ans, qui rien qu'en 2019 a sorti près de 88 morceaux inédits. Pour la deuxième année consécutive, la cérémonie des Oscars qui se tiendra le 9 février à Los Angeles se déroulera sans maître de cérémonie. L'année dernière, après une série de controverses liées à l'acteur Kevin Hart qui devait animer la soirée, l'Académie avait décidé de se passer de Monsieur Loyal pour la première fois en 30 ans. Une formule plus light qui avait séduit plus de 30 millions de téléspectateurs de le cinéma.
Je suis très ému par ce choix qui m'honore.
Honoré et immortel, l'ancien diplomate et écrivain italien Maurizio Serra a été élu hier à l'Académie française au fauteuil de Simone Veil, disparu en juin 2017. Âgé de 64 ans, ancien ambassadeur italien auprès de l'UNESCO, Serra mène en parallèle depuis une quarantaine d'années une carrière littéraire spécialisée dans les biographies et les études historiques. Il est notamment l'auteur de Malaparte, Vies et Légendes, ouvrage qui a reçu en 2011 le Goncourt de la biographie. Bravissimo, Maurizio.
C'est de toute beauté.
Content avec l'Open Content Paris Musée qui regroupe 14 établissements parisiens dont le Petit Palais, le Musée d'Art Moderne ou le Palais Galliera vient de mettre gratuitement en accès libre plus de 100 000 reproductions numériques en haute définition d'œuvres de leur collection. Une initiative pour favoriser l'accès et la visibilité des œuvres dans toute la France et à l'étranger. Une manière aussi de lutter contre la concurrence de géants comme le Louvre, Orsay ou Pompidou. Pouloulou. Neil Tennant et Chris Lowe, les Pet Shop Boys, invités exceptionnels de Boomerang pour la sortie dans une quinzaine de jours de leur 14e album, Hotspots, un disque dont les textes témoignent quand même d'un certain désarroi, d'une certaine solitude. Je pense notamment à une chanson qui s'appelle Hoping for a Miracle. Quel miracle est-ce que vous espérez, vous?
Le miracle dont il est question dans la chanson, c'est l'histoire d'un SDF qui dort dans la rue et qui fait le bilan de sa vie et qui attend un miracle. Et puis, au plan politique, maintenant, ces dernières années, je pense que les gens attendent un miracle. Miracle qui serait de sortir de ce dialogue interminable à propos du Brexit qui n'a cessé de diviser les gens. C'est pas agréable de vivre dans un pays qui vit cette scission. Donc il y a un vrai espoir politique aussi de miracle.
Qu'est-ce qui vous donne des raisons d'espérer ?
À vrai dire, moi, j'oscille entre l'optimisme et le pessimisme. C'est l'un ou l'autre, de toute façon. Mais le miracle dont nous avons vraiment besoin, c'est au niveau du climat. Moi, je déteste voir ces images de banquises qui fondent. Et quelle qu'en soit la raison, c'est complètement anxiogène, quoi. S'il faut un miracle, c'est de recouvrer le climat comme il était avant.
C'est intéressant de vous entendre et de voir les Pet Shop Boys comme vous êtes sensibles au monde, au remous du monde, derrière cette musique festive. Je remarque l'importance que vous accordez au texte de vos chansons. Pourquoi le texte, les mots sont-ils si importants pour vous ?
Ça vient de My Fair Lady, évidemment. Je ne sais pas, mais il y a toujours ça en moi. Quand j'étais petit, j'écrivais déjà des chansons. Et lorsqu'on a commencé à travailler ensemble avec Chris, je voulais toujours écrire des textes sur des choses qui n'étaient pas simplement des clichés de la pop musique. Je voulais qu'il y ait quelque chose de la vie réelle avec une petite touche de romantisme dans ces titres pop. Donc, par exemple, It's a Sin, à l'époque, on n'écrivait pas sur le catholicisme. Madonna n'était pas encore arrivée et c'est ce qu'on a fait avec It's a Sin. Et j'étais très fière parce que je me suis dit, voilà, on apporte quelque chose de nouveau à la pop. Mais bien souvent, c'est comme un film, vous voyez, par exemple, des films à la Ken Loach. Quand Ken Loach fait un film sur un livreur Amazon, par exemple.
Sorry we missed you.
Sorry we missed you, yeah.
And there's something of that. Et oui, il y a quelque chose de ça, c'est-à-dire ce réalisme social qui est présent et qui est romantique aussi.
Pourtant, que peuvent les mots ? Est-ce qu'ils ont un pouvoir, les mots ? Est-ce qu'ils permettent d'ouvrir vraiment les yeux ?
I don't listen to the lyrics.
Moi, j'écoute pas les paroles.
Even I listen to the lyrics.
Moi, oui.
I don't know what the song's about until we do.
Moi, je sais pas de quoi il s'agit. C'est Neil qui explique de quoi il s'agit.
Oui. Je pense que bien sûr, il faut que les paroles elles intriguent et puis aussi qu'elles donnent la mélodie, le rythme. Donc parfois, on peut avoir une chanson qui va être simplement une espèce d'accroche.
I don't wanna go dancing. Then you have to make sense.
Ça, par exemple, et après, on va travailler à partir de ça. Et puis après, voilà, on travaille.
Et moi, je pense par exemple à un titre qui ne figure pas sur l'album, mais que vous aviez sorti l'année dernière et qui s'appelait Give Stupidity a Chance. Donnons sa chance à la stupidité, qui était une chanson ironique à charge contre les dérives populistes, que ce soit au Royaume-Uni, aux États-Unis ou ailleurs. Comment est-ce qu'on combat la stupidité, par exemple, si on est Pet Shop Boys?
Yeah. You fight stupidity.
Ah, comment est-ce qu'on combat la stupidité? Avec un titre ironique sur la stupidité, justement. Aujourd'hui, ce que l'on voit partout dans le monde entier sont des gens qui disent n'importe quoi, voire des choses très méchantes sur les médias sociaux. Et ensuite, ils vont donner une certaine résonance à un avis qui n'est en fait que le fruit de l'ignorance, simplement parce que c'est répété, amplifié. Et ça, c'est vraiment le grand défi du monde à l'heure actuelle. C'est mettre un terme à cette espèce de déversement incessant d'un désinformation. On parlait de la banque. Qui font. Mais pendant ce temps-là, on a ces insanités, ces âneries en ligne.
Quand est-ce que vous avez commencé à écrire Neil Tennant?
Quand j'avais 9 ans, quand j'étais petit, j'ai écrit une comédie musicale. Oui, j'avais 9 ans hein, quand même. Et ça s'appelait La fille qui tirait la queue des chats. Fille de ma classe, évidemment, qui poursuit les chats, qui leur tire la queue. Après, j'ai eu une guitare à l'âge de 12 ans. Et là, j'ai commencé tout de suite à écrire des chansons. J'apprenais tout seul la guitare. J'essayais de faire Blowing Blowing in the Wind de Bob Dylan, par exemple. Et après, une fois que j'ai su enchaîner les accords, j'ai commencé à écrire.
Alors Chris Lowe se marre, évidemment, lorsque vous avez commencé à travailler ensemble. Il paraît, Chris, que vous n'arrêtiez pas de dire à Neil que ses textes étaient trop introvertis, pas assez sexy. Ça veut dire quoi, au juste, pas assez sexy?
Well, of course, it'd have been right for now, though, wouldn't they?
Aujourd'hui, ça marcherait bien. Si on se lançait maintenant, je dirais, mais il faut que ça soit un peu moins sexy, Neil. Voilà ce que je dirais.
Qu'est-ce qui est le plus sexy chez les Pet Shop Boys?
Peut-être bien nous, il y a 35 ans.
Et d'où il vient ce nom, au fait? Parce que c'est une question que tout le monde se pose tout le temps.
Well, the old story is true.
Ce qu'on raconte est vrai. Nous avions des amis qui vivaient dans une maison. Et donc, ça avait trois étudiants qui travaillaient dans une animalerie. Et ça s'appelait The Pet Shop, l'animalerie. Et tout le monde les appelait The Pet Shop Boys. Et nous, on leur disait qu'ils devraient lancer un groupe pour faire du rap. Parce que c'était l'époque des Beastie Boys, tout ça, vous voyez. Et il y avait d'autres groupes qui s'appelaient les Boys, ceci ou cela.
Donc, c'est l'histoire d'une usurpation d'identité.
En fait, ils n'ont pas fait de groupe.
Non, c'était pas un groupe.
On va reparler, évidemment, juste après un extrait de votre nouvel album Hotspot à venir. Ça s'appelle Burning the Heather, brûler la bruyère. Vous êtes sur France Inter avec les Pet Shop Boys, vous écoutez Boomerang, vous êtes tout feu tout flamme. You've got me all wrong. I'm not that guy. I'm just the singer of the song. In my mind's eye, if I thought what you think, I wouldn't even be here. I've just dropped in for a drink before I disappear. You've got me all wrong. There's no one I'm missing. I'm quite happy to be alone. There are no lips I'm kissing. The truth must be the truth, unvarnished in its telling. Otherwise it's just hype you hope. People won't notice you're peddling. Autumn is here.
Augustin Trapenard.
On a fait des reprises de nos chansons, mais en français.
Paris City Boy. Voilà le jour que tu attendais. Tu es un Paris City Boy. Comme on prend sur le Champs-Élysées.
When we'd finished it, when we'd finished it, the French bloke didn't understand.
Le problème, c'est que les Français ne comprenaient rien.
Le français, le gars de la maison disque a dit, oui, je pense qu'il va falloir sous-titrer.
What's wrong with that?
C'est quoi le problème?
On aurait pu les entendre en français, mais c'est vrai qu'ils sont anglais, hein, n'en pas douter. On est quelque part entre les frères Gallagher dans Un Bonjour et le duo de plasticiens déjantés, Gilbert and George, le flegme, la dent polie, le crâne nu mais expressif, pas un mot plus haut que l'autre, mais jamais à l'abri d'un trait d'humour noir, la lunette Mona Lisa pour l'un, l'œil de faucon maltais pour l'autre. Ils sont très élégants ce matin. Neil Tennant et Chris Lowe, les Pet Shop Boys, invités de Boomerang. Votre duo existe depuis près de 40 ans. Vous ne vous êtes jamais perdu de vue. Et qu'est-ce qui fait, en fin de compte, que vous avez tenu ensemble toutes ces années? Parce que des groupes qui se séparent, il y en a plein.
I think
mais je pense que lorsqu'il y a des groupes, 4 ou 5 personnes, il y a forcément des factions dans les groupes. Donc les gens se séparent. Quand on est deux, la communication est plus directe.
Oasis s'est séparé.
Oasis, is a classic example.
Oasis, exemple classique.
I think
Et puis, on est assez stable, je trouve, tous les deux. Donc, on a toujours aimé écrire ensemble, faire des disques ensemble. Et on ne s'est pas senti contraint ou limité. Les gens quittent un groupe en général parce qu'ils ont envie de faire des choses et qu'ils n'arrivent pas à les faire au sein du groupe.
Et puis, je suppose que vous vous apportez des choses mutuellement. En quoi est-ce que vous êtes complémentaires ?
On doit être complémentaires quand même, puisqu'il y a des trucs qui marchent quand même, non ? Non, on aime bien faire nos chansons. C'est pas plus compliqué que ça. Hein. On aime bien composer nos chansons.
Depuis le tout départ, comment est-ce que vous êtes rencontrés, au fait ?
On s'est rencontrés, je racontais tout à l'heure l'histoire de mon synthétiseur. Donc, je le ramène à la maison. Et j'avais une chaîne stéréo et je pensais qu'il avait une enceinte intégrée, le synthé. Or, il n'en avait pas. Donc, je suis allée voir la boutique d'électronique du coin et je leur ai demandé de souder un fil pour que je puisse brancher donc, le synthé sur ma stéréo. Ça a marché d'ailleurs. Et donc, j'étais là, j'attendais que le gars fasse la soudure et Chris est arrivé.
Et qu'est-ce qui vous a frappé immédiatement l'un chez l'autre ?
On a commencé à parler de musique électronique. Chris habitait au coin de la rue. Moi, j'ai toujours cru au destin, en fait. Je me dis, s'il n'avait pas été là ce jour-là dans la boutique...
Comme l'a dit, ou plutôt l'a chanté George Michael, si on n'avait pas été dans la même rue, on ne se serait jamais rencontrés.
Oui, on dit ça aussi pour les fêtes d'hiver.
Was it wrong place, wrong time?
Mauvais endroit, mauvais moment.
Sauf que là, c'était bon endroit, bon moment. Hein. Ça nous a complètement changé la vie, hein, ce petit moment-là.
À quoi ressemblait le Londres de ces années-là, le Londres du début des années 80?
Oh, c'était génial. King's Road, c'était un endroit génial. Il y avait Mackie Kens. On traînait là devant le Chelsea Drugstore, qui est devenu un McDo d'ailleurs, c'est tout dire. Mais c'était une époque géniale. Il y avait une musique d'enfer, des clubs underground super. C'était très chouette. Et puis on était jeunes, faut dire.
Hein. Et il y avait une scène alternative aussi, hein. Donc on pouvait tout à fait aller dans des clubs et là, tout à coup, on entendait une espèce de musique électronique alternative. C'était vraiment l'avenir, la musique électronique à ce moment-là. À ce moment-là, j'ai commencé à écouter cette musique, ce hip-hop new-yorkais qui était une vraie nouveauté, type Planet Patrol, Africa Bambaataa. C'était basé sur la musique de Kraftwerk. C'était vraiment super. On sentait bien qu'il y avait quelque chose de nouveau.
Il y avait des modes à Carnaby Street. Et puis il y avait des marchés. Il y avait un disquaire Rusty Egan et on pouvait traîner toute la journée. Il y avait des marchés, il y avait des disquaires. Bon, on était étudiants, hein. C'était pas la peine de bosser, mais c'était génial pour traîner toute la journée.
C'est émouvant de vous entendre parler de ces années avec tant d'excitation, cette décennie des années 80 qui est aussi sombre que flamboyante. En fin de compte,
c'était une époque particulièrement créative. Chacun se sentait capable de faire quelque chose. Les maisons de disques n'étaient pas à la tête de quoi que ce soit, c'était les groupes qui menaient la danse. Aujourd'hui, évidemment, c'est les maisons de disques qui donnent le la. Et c'est pas très bon, ça. La musique devient ennuyeuse. Et puis, il y a pas mal de gens créatifs aujourd'hui qui ne veulent plus faire partie de groupes, alors que c'était le cas avant. Aujourd'hui, ces gens-là font, je sais pas, de la tech, de la techno.
On a perdu l'influence. Il y avait une influence des écoles d'art hein, sur la musique pop. Il y a beaucoup de groupes britanniques. Je pense aux Beatles, par exemple. Vous voyez, John Lennon, il a fait une école d'art. Les Rolling Stones, je crois que Keith Richards est allé dans une école d'art. Et puis, c'était une influence importante. C'était une musique qui avait quelque chose à dire.
Il y a beaucoup de fantômes autour des Pet Shop Boys.
Oui, il y a des gens qui ne sont plus là. Ouais. David Bowie n'est plus là, Derek Jarman non plus, des gens avec qui on a travaillé au début des années 90.
Toute une génération, il faut le dire, qui est morte du sida aussi.
Toute une génération qui a été emportée par le sida, ça a été un gros problème. Quand on a connu le succès au début.
Il y a un titre sur ce nouveau disque, un titre qui me plaît particulièrement, qui s'appelle Only the Dark. Ce titre, c'est quelque part l'éloge de l'obscurité. Qu'est-ce qu'on peut faire dans le noir qu'on ne peut pas faire en plein jour, les Pet Shop Boys ?
Well, it's quite a sexy song,
ouais,
really.
Bah, en fait, c'est assez sexy comme titre, en fait, mais bon, au plan philosophique, il s'agit de trouver la lumière dans l'obscurité. Et la lumière, si vous voulez, c'est un peu romantique, sexy, érotique, c'est cette lumière-là. Et en fait, bah, quand deux personnes sont ensemble dans le noir et qu'elles sont ensemble, elles ont besoin de rien d'autre, même pas de lumière.
Mais l'obscurité, c'est aussi le mystère. Dans quelle mesure, à votre avis, est-ce qu'on laisse assez de place au mystère aujourd'hui ?
Well, we try and keep, keep
ah ben, nous, mystery, on essaye de préserver le mystère.
I think a younger generation is not about
mais
mystery.
La jeune génération ne s'intéresse pas
putting
trop à ça.
Everything on social media.
La jeune génération, ils mettent tout sur les réseaux sociaux.
And,
zéro secret.
And in that sense, we're completely
et de ce point de vue-là, bah, nous, on va à contre-courant, parce qu'on ne fait pas ça du tout.
Like
nous, on aime bien le mystère.
Alors, quel est le plus grand secret ? C'est ma dernière question, des Pet Shop Boys. Quel est le plus grand mystère ?
Well, it wouldn't be a secret.
Mais ça ne serait plus un secret si on vous le disait.
Un tout petit.
They're actually really interesting in real life.
On est super intéressants dans la vraie vie.
We're not actually
ouais,
really
pas si plan-plan que ça. Ouais.
They have a sense of humor.
Et on a même le sens de l'humour.
Ils sont anglais.
Yeah, we're British, that's the
secret. On est British, c'est ça le secret.
Merci infiniment, Neil Tennant, Chris Lowe. Merci les Pet Shop Boys d'être venus faire un tour dans Boomerang. Je rappelle que Hotspot, votre nouvel album, sort dans 2 semaines, que vous serez bientôt en tournée dans toute l'Europe, bientôt en France. On l'espère. Merci à vous et merci à vos interprètes ce matin, Xavier Combe et Hélène Joguet. Ainsi qu'à toute l'équipe de Boomerang, Lola Costantini, Perrine Malinche, Léonard Billot, Pierre Martinerie, Joséphine Dumoulin et Jean-Baptiste Audibert. Quelle joie, cette semaine de retour en 2020, d'être à vos côtés tout de suite les médias. Sonia De Villers, juste après ça.
Merci.
Mon amour, je dois courir, mais je ne sais qui ni quoi, je cours après.
Odyssée. Odyssée.
Je sais qu'il y a des choses à fuir, il y a 100 000 regards à éviter.
Odyssée.
Je reviendrai conquérir lorsqu'ici tout sera droit et redressé.
Odyssée. Odyssée.
Je pars à demi-sourire, mais crois-moi, je ne fais vraiment pas exprès.
Impression
de toujours voir les mêmes personnes dans des corps différents.
Odyssée.